Chapitre 19. Puis-je vous interrompre, Hugo ?
Mais bien sûr, Dorth,
dit Hugo à Maril avec un grand sourire.
Avec vous, ce n'est jamais une interruption. Que puis-je pour vous ?
J'essaie de découvrir certaines choses, Hugo, et j'aurai un service à vous demander.
Si je peux.
C'est au sujet du premier radiant. J'entends ce terme de temps en temps, Harry en parle aussi. Je crois donc savoir à peu près à quoi il ressemble, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le voir fonctionner. J'aimerais bien. Amaryl parut gêné. À vrai dire, le premier radiant est l'objet le mieux protégé du projet. Et vous n'êtes pas sur la liste des membres qui ont accès.
Je le sais.
Mais nous nous connaissons depuis 28 ans.
Et vous êtes la femme d'Harry.
Je suppose que l'on peut faire une exception.
Nous n'avons que deux premiers radiants complets en état de marche. Le premier est dans le bureau d'Harry, et le second est ici.
Devant vous, en fait. Dorth contempla le cube noir trapu posé sur le bureau au centre de la pièce. Il avait l'air parfaitement anodin.
Alors c'est ça ?
C'est ça.
Il contient les équations qui décrivent le futur.
Comment accédez-vous à ces équations ? Amaryl déplaça un contact, et aussitôt la pièce fut plongée dans l'obscurité tandis qu'apparaissait une lueur diaprée. Dorth vit tout autour d'elle des symboles, des flèches, des lignes, toutes sortes de signes mathématiques. Il semblait évoluer, décrire des spirales, mais dès qu'elle en fixait un fragment bien précis, il paraissait s'immobiliser.
Alors, c'est donc cela l'avenir.
Ça se pourrait bien, dit Amaryl en éteignant l'appareil. J'ai mis l'agrandissement maximal pour que vous puissiez voir les symboles. Sans agrandissement, on ne distingue que des motifs d'ombre et de lumière.
C'est en étudiant ces équations que vous êtes capable de voir ce que nous réserve l'avenir ?
En théorie. Le bureau avait retrouvé son aspect banal habituel.
Mais il y a deux difficultés.
Hein ?
Lesquelles ?
Pour commencer, ces équations n'ont pas été directement créées par un esprit humain.
Nous nous sommes contentés de passer plusieurs dizaines d'années à programmer des ordinateurs toujours plus puissants dont la fonction est de concevoir et d'enregistrer ces équations. Donc nous ignorons si elles sont valides, si elles ont un sens.
Tout dépend de la validité et du sens de la programmation initiale.
Elles pourraient donc être entièrement fausses ?
Éventuellement. Amaryl se frotta les yeux et Dorth ne put s'empêcher de remarquer à quel point il semblait devenu vieux et fatigué ces deux dernières années. Bien qu'étant le cadet d'Harry de 12 ans, il paraissait plus âgé que lui.
Bien sûr, poursuivit Amaryl d'une voix un peu lasse, nous espérons qu'elles ne sont pas entièrement fausses, et c'est là qu'intervient la seconde difficulté. Voilà près de 30 ans qu'Harry et moi les testons et modifions, mais nous ne sommes toujours pas certains de leur signification. L'ordinateur les a élaborées, donc on présume qu'elles ont un sens, mais lequel ? Nous pensons avoir décodé certains fragments. En fait, en ce moment, je travaille sur ce qu'on appelle la section A23, un système de relations particulièrement épineux. Nous n'avons pas encore réussi à les faire correspondre à quoi que ce soit dans l'univers réel. Pourtant, chaque année, nous progressons, et j'attends avec confiance le jour où la psychohistoire sera admise comme une technique utile et reconnue pour appréhender l'avenir.
Combien de personnes ont-elles accès à ces premiers radiants ?
Chaque mathématicien du projet y a accès, mais pas n'importe quand. Il faut déposer une demande. On attribue un temps sur la machine et le premier radiant doit être réglé sur la section d'équations que le mathématicien désire étudier. Cela se complique lorsque tout le monde veut l'utiliser en même temps. Pour l'instant, le rythme est encore lent, sans doute parce que nous sommes au lendemain des cérémonies d'anniversaire d'Harry.
Prévoit-on de construire d'autres premiers radiants ? Amaryl fit la moue.
Oui et non. Il serait bien pratique d'en avoir un troisième, mais il faudrait un responsable pour s'en occuper. Ce n'est pas un simple bien commun. J'ai suggéré à Harry que Tamwild de Sorb, vous le connaissez je crois,
oui,
que de Sorb se voit attribuer un troisième premier radiant. Ses équations achaotiques et l'électrofiltre qu'il a conçu font de lui sans conteste le troisième homme du projet, après Harry et moi-même.
Harry hésite toutefois.
Pourquoi ?
Le savez-vous ?
Si De Sorb en obtient un,
Il sera reconnu de facto comme le troisième responsable, passant par-dessus d'autres mathématiciens plus âgés et qui ont plus d'ancienneté que lui au sein du projet. Cela provoquerait, disons, certaines difficultés politiques. Selon moi, nous n'avons pas de temps à perdre à des querelles de politique interne, mais Harry... Enfin, vous connaissez Harry?
Oui, je connais Harry.
Supposons que je vous dise que Lynn a vu le premier radiant.
Lynn?
Le colonel Enderlin de la Junte, le larbin de Thénard.
Cela, j'en doute fort, Dors.
Il a parlé de spirale d'équation. Et c'est précisément ce que produit le premier radiant. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il est venu ici et l'a vu fonctionner.
Amaryl hocha la tête.
Je n'arrive pas à imaginer que quelqu'un ait amené un membre de la junte dans le bureau d'Harry ou dans le mien.
Dites-moi qui d'autre au sein du projet serait capable, selon vous, de collaborer avec la junte.
Personne.
Le ton d'Amaryl était catégorique et sa confiance absolue.
C'est impensable.
Peut-être que Lynn n'a jamais vu le premier radiant, mais qu'on lui en a parlé.
Qui aurait pu lui en parler?
Amaryl réfléchit quelques instants avant de répondre.
Personne.
Bien. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'attribution éventuelle à deux sorbes d'un troisième premier radiant. Je suppose que dans un projet tel que celui-ci, qui mobilise des centaines de participants, il existe en permanence de petites rivalités internes, des frictions, des querelles.
Oh ça oui.
Le pauvre Harry m'en parle régulièrement. Il est bien obligé de les aplanir d'une manière ou d'une autre et j'imagine sans peine quel casse-tête ce doit être pour lui.
Ces rivalités sont-elles suffisamment graves pour entraver la bonne marche du projet?
Non.
Pas vraiment.
Y a-t-il des gens plus querelleurs que d'autres?
Ou plus enclins au ressentiment?
En bref, y a-t-il des collaborateurs dont vous pourriez vous défaire de façon à supprimer 90% des frictions?
Amaryl haussa les sourcils.
Cela paraît une bonne idée au premier abord, mais je ne sais pas de qui il faudrait se débarrasser. Je ne suis pas les détails de toutes les arguties du service. Comme il est impossible d'y mettre un terme, je me contente de les éviter.
C'est étrange. Cette façon de faire enlève toute crédibilité à la psychohistoire.
Comment cela?
Comment pouvez-vous prétendre être en mesure de prédire et d'orienter l'avenir quand vous n'êtes pas capable d'analyser et de corriger de triviales frictions internes au sein même d'un projet aussi prometteur?
Amaryl émit un petit gloussement. C'était inhabituel, car ce n'était pas un homme enclin à l'humour ou porté au rire.
Je suis désolé, Dors. Mais vous touchez du doigt le seul et unique problème que nous ayons résolu, si l'on peut dire.
Harry a identifié, il y a plusieurs années, les équations qui représentaient les difficultés dues aux frictions personnelles, et je les ai moi-même peaufinées l'an dernier. J'ai découvert qu'il était possible de les modifier pour limiter ces frictions. Dans chaque cas, toutefois, une réduction ici se traduisait par un accroissement ailleurs. On ne constate jamais une diminution générale, ni d'ailleurs une augmentation générale des frictions au sein d'un groupe fermé, à savoir un groupe où il n'y a ni départ d'anciens membres, ni arrivée de nouveaux. J'ai prouvé, grâce aux équations achaotiques de De Sorbe, que cela se vérifiait en dépit de toutes les dispositions imaginables. Harry appelle cela la loi de conservation des problèmes personnels. Cela a fait naître l'idée que la dynamique sociale avait ses lois de conservation à l'instar de la physique, et qu'en fait, ces lois nous offrent le meilleur outil possible pour résoudre les problèmes vraiment embarrassants que pose la psychohistoire.
Plutôt impressionnant. Mais supposez qu'au bout du compte vous découvriez qu'on ne peut absolument rien changer, que tout ce qui est nuisible se conserve, et que sauver l'Empire de la destruction, c'est simplement accroître d'autres formes de destruction.
À vrai dire, certains l'ont effectivement suggéré.
Mais je n'y crois pas.
Très bien.
Revenons à la réalité. Y a-t-il quoi que ce soit dans ces problèmes de friction au sein du projet qui puisse menacer Harry, je veux dire,
le menacer physiquement.
Menacer physiquement Harry?
Bien sûr que non. Comment pouvez-vous penser une chose pareille?
Je comprendrais que certains le détestent parce qu'ils le trouvent trop arrogant, trop arriviste, trop imbu de lui-même, trop avide de s'approprier tout le crédit. On peut aussi le détester tout simplement parce qu'il est depuis si longtemps à la tête du projet.
Je n'ai jamais entendu personne dire de telles choses sur Harry.
Dorse ne semblait pas satisfaite.
Je doute que quiconque se livre à de telles confidences à portée de vos oreilles.
Enfin, merci, Hugo, pour votre obligeance et merci de m'avoir consacré une si grande partie de votre temps.
Amaryl la regarda s'éloigner. Il était vaguement préoccupé, mais bientôt, il se replongea dans son travail et oublia tous les autres soucis.